petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Comme les héros de Malraux ou ceux du grec Kazantzakis, Joséphine Baker donne violemment dans l'extravagance et dans les contrastes les plus forts. Sa panthéonisation, comme on dit, le 30 novembre de cette année, est hautement méritée, certes au regard insisté sur la magnifique star des années folles, tout aussi bien grande résistante et mère adoptive de 12 enfants cosmopolites. Joséphine Baker coche toutes les cases du modèle désiré en 2021 par la plupart des Français, patriotes, joyeuses, émigrées noires bien intégrées, républicaines, antiracistes, femmes libérées, etc. J'approuve la vérité de ce tableau, mais je voudrais insister sur des aspects encore plus extraordinaires et paradigmatiques de la personnalité de Joséphine Baker, femme réelle qui rejoint les personnages de fiction des romanciers et philosophes Malraux et Kazantzakis. Joséphine naît dans une famille miséreuse du sud des États-Unis, ségrégationniste, ce sud des États-Unis, du début du XXe siècle. Mais rappelons que ses aïeux étaient martiniquais. On peut le rappeler, ça, quand même. Fille noire, elle est une exclue, et elle se sent exclue. Elle n'abandonne cependant pas. Elle s'acharde, se donne à fond, dans un contexte pourtant pauvre, pour exploiter ses dons de danseuse et aussi de chanteuse. À force de volonté et de beauté, elle parvient jusqu'à Broadway, où la franco-américaine Caroline Dutley la remarque et la convainc de la suivre avec son équipe, l'équipe de Joséphine Baker, où il y a le futur célèbre Sidney Bechet. Donc elle la convainc de la suivre pour enchanter les nuits parisiennes des années 1920. Là, la jeune fille misérable va devenir rapidement une star de premier plan. Alors, petit clin d'œil d'Occitanie, Caroline Dutley et son mari, Joseph Delteille, écrivain et poète, sont très introduits dans le tout Paris du showbiz. Par eux va se créer la Revue Nègre, célèbre spectacle où triomphe Joséphine Baker. Eh bien, sachez que ce Joseph Delteille et cette Caroline Dutley sont enterrés en France, en Occitanie, dans l'Aude, à Pieus, près de Limoux. Joséphine est grande, mais le monde est petit. Alors, cette Vénus noire, comme on la surnomma, est une femme frivole. Et cependant, elle témoignera d'une âme profonde. Elle peut être considérée comme une bombe sexuelle, dansant presque entièrement nue, et pourtant, elle déjoue en partie cette image en faisant nombre de grimaces qui, selon l'expression du président de la République le 30 novembre de cette année, je cite, « écorne l'érotisme ». Âme profonde, Joséphine le prouve en prenant le risque, dès 1939, d'entrer dans les services secrets anti-nazis qui deviendront ceux de la France libre, où elle recueille, dans la haute société qu'elle fréquente, des renseignements qu'elle transmet par microfilm au cabinet du général de Gaulle. Elle sera, pendant la guerre, élevée au rang d'officier de l'armée de l'air. Elle, pourtant devenue très riche, va se ruiner à élever dans le château des Milandes, en Dordogne, 12 enfants adoptés sur tous les continents. Autre paradoxe, Joséphine Baker, militante de la cause des Noirs américains, aux côtés de Martin Luther King, en 1963 particulièrement, elle prononce cela aux côtés de Martin Luther King, un discours en uniforme de sous-lieutenant de l'armée de l'air française. Néanmoins, en France, elle se laisse mettre en scène dans les stéréotypes français sur la négritude de l'entre-deux-guerres. Alors, par exemple, ceinture de banane, hein, alors qu'elle est quasiment nue. Ou alors, on la voit enfermée dans une cage, etc., comme un singe. Cette vision colonialiste est en fait réduite en dérision par Joséphine elle-même. Les contrastes ne manquent pas. Elle sera une fidèle de Gaulle, mais aussi un ami de Fidel Castro, comme Malraux sera ami de Gaulle et ami aussi de Mao Tse-tung. Son influence culturelle est considérable. Joséphine Baker participe à introduire en France le jazz avec son ami Cindy Bechet, j'en ai parlé tout à l'heure, et introduire aussi le charleston. Elle sera l'égérie des peintres cubistes. Elle prendra comme secrétaire, et oui, un certain Georges Simenon, le futur célèbre romancier, qui sera d'ailleurs son amant, pas longtemps, mais qui sera son amant. Elle participe à ce qu'on appelle la Renaissance de Harlem, c'est une période culturelle, Renaissance de Harlem aux USA, avec le légendaire Cotton Club et les musiciens tels que Louis Armstrong ou Duke Ellington. En France, elle tourne des films tels que Zouzou avec Jean Gabin. Et Joséphine intègre et développe aussi la Croix-Rouge. Ruinée, elle est sauvée par Brigitte Bardot et surtout par la princesse Grâce de Monaco. Ce qui ne l'a pas empêchée, en 1967, d'envoyer ses condoléances à Fidel Castro après la mort du révolutionnaire marxiste Che Guevara. En 1975, Joséphine Baker, l'ex-reine des Folies Bergères, se produit comme danseuse et chanteuse à Bobino devant des artistes tels qu'Alain Delon, Mick Jagger, Jeanne Moreau et bien d'autres. Elle meurt peu après d'une hémorragie cérébrale et elle recevra les honneurs militaires, ce qui est extrêmement rare pour une femme, surtout à cette époque, elle qui était décorée de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre, de la Médaille de la Résistance et du titre de juste. Titre de juste, si parcimonieusement décerné par Israël. Elle a été plus ou moins franc-maçonne, mais elle aura des funérailles catholiques à Monaco. Même aujourd'hui, sa dépouille n'est pas au Panthéon, mais toujours au cimetière de Monaco. C'est un cénotaphe, comme on dit, c'est-à-dire un symbole de Joséphine Baker qui est au Panthéon. Cénotaphe fait de quatre poignées de terre, celle du Missouri où elle est née, celle de Paris où elle triompha, celle des Milandes où elle avait son château et ses 12 enfants, et celle de Monaco. Thank you. Autre contraste entre Joséphine Baker. En 1936, elle soutient le Front populaire, puis soutient les révolutions castristes d'Amérique latine, mais fin mai 68, elle est en tête de l'immense cortège gaulliste, anti-marxiste, aux côtés d'André Malraux, qui d'ailleurs meurt un an après elle, en 1976. Malraux et ses héros fictifs, et Joséphine Baker, ne sont pas les frileux de la morale du troupeau, comme dirait Nietzsche. Ils sont animés par la vertu qui donne, comme dirait Zarathoustra. Ce sont des êtres humains en sortie de soi, en sortir d'eux-mêmes, comme dirait le pape François. Le bonheur n'est pas dans le repliement sécuritaire, mais dans le don de soi à l'action, au dépassement de soi, à l'audace, à la résistance, dans l'amour des autres. Certes, ni Malraux ni Joséphine Baker ne sont attentifs à l'appel transcendant au don de soi. Ils sont plus nietzschéens que chrétiens. Mais ils parviennent à une partielle victoire sur la mort en flirtant avec elle dans le défi, le challenge, la témérité, l'ardeur. Dans le film Zorba le Grec de Kakoyanis en 1964 avec Anthony Quinn, Zorba, après l'échec de son projet, dit à son ami écrivain, qui n'est autre en fait l'ami écrivain que Nikos Kazantzakis, l'auteur d'Alexis Zorba, le roman, en 1946. Donc Zorba dit « L'homme doit avoir un grain de folie ou alors il n'ose jamais couper la corde et être libre. » Fin de citation. Dans le film, l'écrivain, dans le film et pas dans le roman, mais dans le film, l'écrivain se convertit à cette folie dionysiaque de Zorba, à cette gaieté de l'expression éperdue de soi. Joséphine Baker est un peu beaucoup, le Zorba à la française. Ce n'était pas une intellectuelle, Zorba non plus, mais la mort fatigue, l'amour de son destin pris en main, n'est pas une méditation dans le boudoir, c'est une praxis, une action, jusqu'au vertige.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.